Bravo les musiciens, vous êtes formidables. Restez là, vous restez là. Nous allons prier ce matin pour que Dieu nous accorde sa bénédiction pendant ce culte d'adoration. Nous te remercions Seigneur Jésus pour ce moment privilégié que nous pouvons avoir encore ici, de pouvoir te louer ensemble, te bénir, te glorifier et apporter ta parole et d'entendre ta parole, nous mettre en ordre avec ta parole afin que nous puissions être prêts lorsque tu reviendras. Merci Seigneur Jésus de nous donner l'huile nécessaire dans nos lampes pour pouvoir être bien éclairés et agir de la manière correcte, selon tes ordonnances et tes principes. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Vous êtes contents ce matin?
Oui.
Ouais, moi aussi. Puis je viens d'apprendre une bonne nouvelle. Je vais laisser quelques instants notre sœur Michel qui va venir vous raconter quelque chose. Venez ici devant qu'on vous voit. Puis je vais demander à Stéphane de faire une photo de ma sœur Michel. Pleine d'énergie, ma sœur Michel. Ah, tu sais comment on fait pour prendre une photo. Voilà.
Ah, c'est là, d'accord.
Voilà, alors on vous écoute, sœur Michel, allez-y.
Ben, je vais commencer par le début, c'est-à-dire ce que j'ai comme maladie, une maladie que...
Voilà. Il faut dire le nom.
Une chorée de titre.
Ah ben c'est pas rien.
Et cette maladie d'art, quand, la première chose qu'on nous apprend quand le spécialiste il nous dit qu'on est positif, que bon, on finit fou, quoi. Et donc, et comme c'est génétique, on n'y peut pas grand-chose. Ouais. Bien que les médecins essaient de travailler pour que ça ne se déclare pas.
Ouais.
Donc, ils essaient de travailler, je ne sais pas comment ils font, sur le génétique.
Ouais.
Parce que, mais donc, jusqu'à maintenant, c'est pas la, je ne suis pas encore folle. Mm-hmm. Mais en revanche, cette fois-ci, on m'a trouvé tellement bien qu'on m'a fait des tests d'intelligence, de mémoire, de, enfin, les tests qu'on fait au bien portant.
Oui.
Donc, voilà. Donc, je sais pas. Enfin, je remercie Dieu parce que et puis les prières bien sûr, mais surtout Dieu et Dieu Jésus.
Et, oui, gloire à Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit que
ben, ils m'ont dit que j'avais l'air bien, quoi, que j'étais en forme.
Vous êtes en forme.
Je suis en forme et j'ai pas l'air débile. Bien sûr, ils demandent si on a crécy, tout. Bon mari témoigne à chaque fois parce que enfin témoigne. Que je ne suis pas agressif et tout ça, quoi, parce qu'au début de la maladie, on commence à être agressif et tout ça. Tandis que moi, je n'ai jamais été agressif, il n'y a rien, merci Seigneur.
Merci Seigneur. Voilà. Donc, en quelque sorte, ils disent que vous allez bien.
Voilà, c'est ça, et je vais bien, ils ne disent pas que je suis guéri parce que...
oui, dans ces domaines-là, c'est comme pour le cancer, ils ne disent jamais qu'ils ne parlent pas de guérison.
Voilà.
Mais ils parlent de stabilité ou d'amélioration.
Voilà. Hein. Tandis que là, on est vraiment... plus qu'une amélioration. Quoi.
Plus qu'une amélioration. Ah, gloire à Dieu. Amen. On est content pour notre sœur Michel. Amen. Un bisou. Voilà. Vous permettez qu'on vous mette en photo avec moi sur Révélation Bible, ça fera plaisir à tout le monde.
Mais non, au contraire.
Alors allons-y. Tu as fait des photos. Fais encore une belle. Voilà. Voilà, formidable. Merci beaucoup, sœur Michel. En tout cas, on est content de voir, parce que c'est vrai, on a craint pendant un temps, on ne vous voyait pas trop bien.
Hein. C'est-à-dire qu'on a eu des tas de problèmes, famille, et
Il y a tout ça, la tension qui fait que normalement, ça aurait dû s'aggraver.
Voilà, ah oui.
Et puis non, ça ne s'est pas aggravé.
Voilà, non.
La prière et la confession de la foi que Jésus-Christ est vivant, ça c'est toujours ce qu'il faut faire. Amen. Bravo, sœur Michel. Vous écoutez bien les prédications et vous les mettez en pratique. C'est ça qui compte. Mettre en pratique. La prière, c'est une chose. Mais si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, bon, voilà, il n'y a rien. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Et votre petit-fils, il va toujours bien?
Oui.
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 Son
fils, mon fils, je ne sais pas, mais qu'il va passer le médecin. Pour son œil, on ne sait toujours pas s'il a été guéri par Dieu ou pas.
Mais il va bien.
Oui.
Bon, alors, s'il va bien, c'est ce qui compte. S'il va bien, c'est ce qui compte. Que Dieu vous bénisse. Merci, sœur Michel. Ah, Dieu est bon, Dieu est grand. Amen. On fait encore, peut-être, non, on ne va pas faire un chant encore. On va arrêter là et puis je vais apporter la parole de Dieu tout de suite. Vous êtes contents, mes frères et sœurs? Moi, je suis content parce que j'aime beaucoup notre sœur Michel, et je suis content de voir que... Merci. Oui, je vais l'éteindre. Merci. Je suis content de voir qu'elle va bien. Amen. Alors, je mets le petit micro à la cravate. Excusez-moi pour tous les petits bruits que je peux faire. Où est donc ma Bible, là? Oui, merci Seigneur. Dieu est grand. Cette semaine, j'ai lu les notes que Robert Colero, notre frère, m'a données concernant la vision de Daniel. C'est des notes dont il s'est servi pour prêcher là-bas dans une église au Burkina Faso. Et c'est vraiment très complet, c'est très bien réalisé, c'est très bien fait. Je vais garder ces notes parce que c'est très précieux. C'est un excellent, excellent résumé de toutes ces choses. Et il a pris même le temps, non pas seulement d'écrire les références bibliques, mais tous les versets bibliques. Ça, c'est quelque chose de bien. Si vous voulez, si quelques-uns sont... je pense que tu es d'accord, Robert, qu'on fasse des photocopies, que les frères et sœurs puissent les avoir. Voilà, merci. Merci, Robert. Dieu te bénisse. Et pendant que je disais ça, j'ai réalisé que c'est vrai, ça fait longtemps que je n'avais pas enseigné ces choses. Et bon, c'est quand même des choses très importantes. Et depuis ce temps, il y a eu tellement d'événements nouveaux qui se sont produits, soit dans le monde, soit dans l'Église, soit en moi-même. Je me suis dit, il faudrait quand même que je revienne sur ces enseignements. Alors j'ai décidé de lancer le premier enseignement ce matin. Et puis, pendant quelques vendredis, après, je vous apporterai la suite. Puis le dimanche, on ne le consacrera pas à l'enseignement, mais à la prédication. Mais ce matin, ça va être un enseignement qui sera suivi vendredi prochain et d'autres vendredis encore. Donc ce matin, je voudrais non pas vous répéter ce que j'ai déjà enseigné sur la prophétie de Daniel. Vous trouvez ça sur Révélation Bible ou sur les sept âges de l'Église ou sur les sept sceaux de l'Apocalypse. Je voudrais, parce que tout ça, je l'ai déjà dit, redit, je voudrais... vous donner une lumière supplémentaire sur toutes ces choses afin que nous ne nous lâchions pas l'âme découragée en attendant le retour de Jésus. Amen. Parce que, voilà, nous voyons beaucoup de gens qui se lassent et qui font des projets parce qu'ils sont là. Ils font des projets extraordinaires. Ils construisent la plus grande cathédrale, ils construisent le plus grand machin et tout. Parce qu'ils sont lassés d'attendre, donc ils se lancent dans toutes sortes de choses. C'est vrai qu'il faut toujours avoir des projets, mais il ne faut pas que ça soit mirobolant non plus, parce que bon, ça ne sert à rien, Jésus revient très bientôt, mes frères et sœurs, très bientôt. Et tous ces projets extraordinaires, bien sûr, c'est louable, mais voilà, c'est aussi un petit peu une marque d'incrédulité au sujet de l'imminence de du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse 2 et 3, nous avons là sept lettres qui ont été envoyées, qui ont été dictées par Jésus à Jean et qui ont été envoyées à sept églises locales. C'est les sept messages, le message de ces sept lettres ont une double portée. Non seulement elles s'adressent aux églises locales, c'est-à-dire à Éphèse, Smyrne, Laodicée, Thyatire, etc., mais aussi à cette époque de l'existence de l'Église sur Terre, cette époque qu'on appelle des dispensations. Je reviendrai sur ce mot tout à l'heure. Et nous apprenons des choses très importantes dans ces sept prophéties au sujet des sept époques de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, mais la chose la plus importante, à mon avis, la chose la plus importante qu'on apprend là, c'est qu'il y a dans le monde deux églises, la vraie et la fausse. Et il faut les identifier, mes frères et sœurs. Je voudrais vous parler ce matin afin que les choses soient bien claires pour vous qui écoutez. On ne peut pas être un chrétien fidèle, on peut être un chrétien, mais fidèle en faisant partie de la fausse église, c'est difficile. Et on ne peut pas être un chrétien fidèle, on peut être un chrétien, mais être fidèle sans être membre de la vraie Église, c'est difficile. Parce qu'il y a une vraie, il y a la vraie Église de Jésus-Christ. C'est lui qui construit son Église. Et on ne peut pas, parce qu'on a été choqué dans une Église, ou parce que si ou parce que ça, sortir de là et puis dormir le dimanche matin, ne pas se réunir, ne pas apprendre la Sainte-Cène, ne pas pratiquer le lavage des pieds, ne plus faire toutes ces choses, ces ordonnances, et puis prier ensemble avec les frères et sœurs, etc., et être membre de l'Église dans le sens d'être participant au travail que l'Église accomplit sur cette terre, de faire connaître la révélation par tous les moyens, par la prière, par le soutien financier et toutes ces choses. Vous êtes d'accord? Les croyants qui appartiennent à des églises seront sauvés. J'ai toujours dit ça, que ce soit dans l'Église catholique, protestante, baptiste, pentecôtiste, mennonite, darbiste, mormoniste, enfin tout ce que vous voulez, ils seront sauvés. C'est-à-dire ils passeront par la grande tribulation, certainement beaucoup, parce qu'ils ne seront pas au top, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Ceux qui font partie d'aucune église doivent comprendre, ce que Jésus dit à son église, parce que c'est à son église que Jésus parle. On peut dire « je suis membre de son église », oui, mais hein, vous avez jamais vu une main qui se balade toute seule? Non, on est attaché à un corps, et le corps, c'est l'église. Et nous devons, donc un chrétien qui ne fait pas partie de la vraie église de Jésus-Christ, eh bien, et qui ne fait pas ce que Jésus-Christ dit dans l'Écriture et ce qu'il révèle en ce moment à l'église, ça va être difficile pour cette personne. C'est déjà difficile, mais ça va être encore plus difficile avec les temps qui viennent. Vous allez me dire, oh, mais c'est beaucoup plus facile pour moi depuis que je ne fréquente plus les églises parce que c'était des soucis, c'était des problèmes. C'est vrai, c'est possible. Je comprends tout à fait. Mais quand même, il faut que vous écoutiez ce que le Saint-Esprit a à dire encore en ce moment à l'Église. La question toute crue, c'est donc, mais quelle est donc la vraie Église? Alors tous prétendent être la vraie Église. Et beaucoup sont sincères. Et puis, ils le prétendent plus ou moins vigoureusement. Au cours des âges, il y en a qui l'ont prétendu tellement vigoureusement que si vous ne faisiez pas partie de leur truc, eh ben, ils vous persécutaient, ils vous envoyaient aux galères, ils vous brûlaient vifs sur des places de marché. C'est terrible, hein? Aujourd'hui, non, c'est plus tout à fait la même chose, mais enfin, quand même, tous prétendent être la vraie Église. Alors, ce matin, on va ouvrir nos Bibles et écouter ce que Dieu a à dire à ce sujet. Et je voudrais commencer par un verset qui se trouve dans Actes 3, verset 21. Où il est dit, on va commencer déjà au verset 19, « Changez donc d'attitude, ou dans d'autres versions c'est « repentez-vous » et « convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. » Donc, pour le moment, Jésus a été accueilli au ciel, c'est ce que je lis, hein. Il était accueilli au ciel jusqu'au moment de la restauration totale dont tous les prophètes ont parlé. Donc il y a quelque chose qui doit arriver avant que Jésus revienne, c'est cette restauration totale. Et malheureusement, dans les églises, on ne parle pas de ça. On parle de tout, on parle du retour des Juifs dans leur pays, on parle de la chute du dollar, de la mondialisation, mais on oublie ça. Et ça, c'est la chose, c'est un signe très important, la restauration de toute chose. Nous apprenons que les prophètes d'autrefois se sont étendus avec délices sur ce thème du rétablissement de toute chose. Et ils ont espéré, dans une joyeuse attente, ce que nous sommes en train de vivre. Le jour que nous vivons, c'est un temps exceptionnel. Ce rétablissement que nous vivons est le dernier acte du drame divin créé par Dieu pour ses enfants avant le millénium. Mes frères et sœurs, nous vivons, nous sommes dans la dispensation de la plénitude des temps. Dans les églises, ils se trompent, ils disent « nous avons la plénitude de la connaissance, nous avons le plein évangile ». Il se trompe, c'est faux. Mais s'il disait, par exemple, nous sommes dans la plénitude des temps, là, ils auraient raison. Alors, nous allons adopter ce terme. Nous sommes arrivés dans la plénitude des temps. D'accord? C'est le terme juste. Mais nous ne connaissons encore pas complètement, puisque Dieu n'a pas fini de parler. Dieu n'a pas fini de restaurer ce qu'il avait déjà donné avant dans l'Église primitive. Il n'a pas encore restauré tout dans l'Église de la fin, afin qu'elle soit telle qu'elle était au commencement. Elle ne pourra pas être enlevée si elle n'est pas telle qu'elle était au commencement. C'est dans notre temps que devait avoir lieu le rétablissement de toutes choses dont nous parle Éphésiens 1, 7 à 10. Et là aussi, on va le lire. Ce sont des choses très importantes. Et j'espère que des chrétiens qui n'ont pas l'habitude de venir sur Révélation Bible auront été poussés par le Saint-Esprit à venir écouter ce matin. Éphésiens 1, 7, 10. D'un coup, je pense à ça, Sœur Michel. Ça fait combien d'années que cette maladie a été diagnostiquée en vous?
J'avais 58 ans.
Et vous en avez, excusez-moi?
66.
Bon, ça fait quand même 8 ans maintenant. 8 ans. Eh bien, dis donc, gloire à Dieu. Hein.
Excusez-moi de dire ça comment, mais la première chose que Dieu a guérie, c'est que très rapidement, j'ai été incontinent.
Ah, d'accord. Et ça, c'était... Ça, oh, ben oui, c'est pour en temps. Vous voyez, Dieu confirme toujours par des signes, par des miracles, par des prodiges, et encore aujourd'hui, on le remercie. Amen. On le remercie. Gloire à Dieu. Ça, c'est magnifique. Éphésiens 1, 7 à 10, je reviens. En lui, donc en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Vous croyez ça pour vous? Est-ce que quelqu'un peut venir vous accuser disant que vous n'êtes pas pardonné? Non, vous croyez ça pour vous. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et le moment est venu. En ce moment, il est en train de réunir ce qui est sur la terre avec ce qui est au ciel. C'est le rétablissement de toutes choses. C'est dans notre temps que devait avoir lieu ce rétablissement. Mes frères et sœurs, en vérité, ce que nous appelons l'Évangile, la bonne nouvelle, est beaucoup plus ancien que la terre elle-même. Dans Apocalypse 4, 6, il nous est dit que l'Évangile est éternel. Les principes éternels ont été révélés aux enfants de Dieu dans le grand conseil de Dieu des cieux. Le plan du Père Céleste avait été déjà centré sur Jésus-Christ. On vient de le lire. Il avait été choisi pour être l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. On lit ça dans Apocalypse 13, 8. Dans ce conseil, notre Père Céleste a expliqué que la terre serait pour ses enfants un lieu de mise à l'épreuve. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas troublés de ce qui vous arrive, des maladies qui vous arrivent, des persécutions qui vous arrivent, des choses qui peuvent vous arriver, des épreuves, ne soyez pas troublés, c'est normal. Dieu nous l'avait expliqué avant même que nous venions sur la terre, et il nous le rappelle dans sa parole. Il nous a expliqué que la terre serait pour ses enfants un lieu de mise à l'épreuve pour révéler qui sont ceux qui font sa volonté et qui sont ceux qui ne la font pas et qui sont ceux qui l'abandonnent. Il expliqua comment nous en arriverions à avoir la connaissance du bien et du mal afin de pouvoir manifester ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons la connaissance du bien et du mal, pour pouvoir manifester ce que nous sommes. L'esprit inférieur, connu sous le nom de adversaire ou Satan, le mot Satan, le diable ne s'appelle pas Satan, c'est un nom, c'est un qualificatif, ça signifie adversaire. Eh bien, il s'est opposé à ce plan, et parce qu'il s'est opposé à ce plan, il était chassé de la présence de Dieu, il est devenu dans un premier temps un reptile, le serpent, que la Bible appelle le serpent ancien ou le dragon, il était incarné dans un animal, et il a tenté Ève, et puis Dieu lui a coupé ses pattes, et puis il a rampé jusqu'au jour où il a certainement crevé misérablement dans le déluge, l'animal, mais l'esprit est toujours existant, et c'est cet esprit qu'on appelle le diable. Le diable, le père du mensonge, Et son rôle est de tromper les gens et de les emmener captifs à sa volonté. Et on connaît le résultat. On voit aujourd'hui toutes ces horreurs qui se passent parce que les gens suivent le diable plutôt que de suivre Dieu. Dieu a suscité des prophètes pour enseigner à ses enfants les principes et les ordonnances de l'évangile éternel de Jésus-Christ. Alors, dès le début, avant même que la terre soit créée, il y a eu une lutte entre le royaume de Dieu et celui du diable. Dieu a établi sur terre son assemblée. Au commencement, c'était avec la famille de Monsieur Abraham. Son groupe, son peuple, son église, sa communauté, son organisation terrestre. Et à certains moments, sur la terre, il l'a réorganisé pour rassembler les gens élus et obéissants. Il les a rassemblés dans une société basée sur des alliances pour les entraîner à lutter contre le mal. Et puis d'autres ont créé des assemblées et des trucs et des machins qui ressemblent plus ou moins à la véritable Église, mais qui ne sont pas la véritable Église, ce sont leurs organisations à eux. La vraie Église a les principes et les ordonnances nécessaires de l'évangile de Jésus-Christ qui conduit à la vie éternelle dans chaque époque. Il n'était pas demandé la même chose aux luthériens qu'à ceux du temps de Wesley, ou à notre temps à nous, ou du temps du Moyen-Âge. Non, pas du tout. Alors, j'ai prononcé un mot tout à l'heure, le mot dispensation. On appelle dispensation la période au cours de laquelle le Seigneur révèle la doctrine, les ordonnances et la prêtrise de son évangile éternel. La prêtrise d'aujourd'hui n'est pas la même que la prêtrise du temps de Moïse. La dispensation d'Adam n'est pas la même que la dispensation de Noé. La bonne nouvelle pour Adam, c'était autre chose que la bonne nouvelle pour Noé. Et les ordonnances aussi. Dieu n'a pas ordonné à Adam de construire une arche. Est-ce que Dieu a changé? Non, c'est simplement la dispensation qui a changé. C'était un autre temps, une autre époque. Et ceux qui n'ont pas voulu entrer dans la dispensation de Noé, qui sont restés en disant, mais non, Dieu n'a jamais dit ça, on ne peut pas croire ça, ben, ils sont restés en dehors de l'arche et ils ont tous péri, emportés par les flots, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ce que l'évangile, la bonne nouvelle donnée à ce moment-là, ils n'ont pas voulu l'écouter, puis voilà. Ça n'a pas été la même chose au temps d'Abraham, ça n'a pas été la même chose au temps de Moïse, ça n'a pas été la même chose au temps de Jésus, et même on peut dire que ça n'a pas été la même chose au temps des apôtres, puisque au temps de Jésus, c'était réservé à Israël. Et depuis les apôtres, ça s'est répandu dans le monde entier. Donc c'est une très grande différence. Ces dispensations ou périodes ont donné à ceux qui étaient fidèles et obéissants l'occasion de vaincre le monde méchant et de se préparer à la vie éternelle. Parce qu'on se prépare à la vie éternelle. On reçoit la vie éternelle, mais on s'y prépare en se conformant aux principes et aux ordonnances de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ donné à notre époque. Les luthériens se préparaient autrement que nous. Pour eux, il suffisait de croire que Jésus-Christ était le sauveur et qu'on n'était pas sauvé par les indulgences du pape. C'était déjà pas mal. Il y a eu beaucoup d'autres choses aussi qui ont été rétablies à cette époque. La bonne nouvelle de Jésus-Christ n'était pas la même dans toutes les dispensations. Pourquoi est-ce que je peux dire que l'évangile de Jésus-Christ a été annoncé depuis Adam? Parce que Dieu se manifeste dans sa création par Jésus. Le premier-né de toute la création, on trouve ça dans Colossiens 1,15. Et tout ce qui vient de Dieu, notre Père céleste, est donné par Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Et rien n'existe en dehors de lui, c'est-à-dire même la bonne nouvelle n'existe pas en dehors de lui. C'est pourquoi je dis que l'évangile de Jésus-Christ a été prêché à Adam, mais il n'était pas le même évangile que nous avons aujourd'hui, que nous sommes arrivés à la plénitude des temps. Vous comprenez bien, il n'y avait pas eu la croix, il n'y avait pas eu toutes ces choses, d'accord? Mais c'était quand même aussi une bonne nouvelle. Il y avait quand même une bonne nouvelle pour eux. Si tu domines sur le mal, etc., etc., voilà.
Mais c'était donc le même Dieu, Jésus-Christ, qui donnait ses ordonnances, qui donnait ses principes dans toutes les dispensations. Plusieurs fois, et même chaque fois, l'épanouissement de la vraie Église, du vrai groupe, du vrai peuple de Dieu, a été suivi d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la vérité. Un ignorant ne peut pas abandonner la vérité. L'apostasie concerne donc l'Église, pas les gens dehors, mais la véritable Église de Jésus-Christ. Ceux qui abandonnent la vérité révélée à l'Église de Jésus-Christ, dans le temps où ils sont, sont des apostats. C'est-à-dire des gens qui abandonnent. Le mot apostat, ça veut dire ça. Et quand nous regardons l'histoire du monde, on voit nettement que tous ces épanouissements et ces apostasies ont été cycliques. C'est toujours revenu, toujours la même chose. Chaque fois que le peuple de Dieu tombait dans l'abandon des vérités de Dieu, chaque fois se manifestait le besoin de rétablir l'Évangile. Alors, vous devez savoir avec certitude que le rétablissement dont il est question de nos jours n'est pas autre chose que le dernier de la série. C'est le dernier de la série des rétablissements qui ont eu lieu tout au cours des siècles. Quand Jésus est venu s'incarner en Israël, il a rétabli l'Évangile et une prêtrise supérieure. Vous êtes d'accord? C'est écrit dans les Hébreux. Il a organisé son Église, un peuple assemblé, c'est-à-dire une communauté, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Paul l'écrit dans Éphésiens chapitre 2 et verset 20. Les apôtres et les prophètes devaient poursuivre l'œuvre après lui. Ils étaient ses successeurs. Ils ont reçu le Saint-Esprit et l'imposition des mains de la part de Jésus-Christ pour pouvoir l'être. Jésus-Christ a passé beaucoup de temps à former ses apôtres, ses envoyés. Le mot apôtre signifie envoyé. Il a passé beaucoup de temps avec eux en privé. Et il leur a donné l'autorité nécessaire et les clés nécessaires pour poursuivre son œuvre après son ascension. Pour cela, il a choisi Pierre, Jacques et Jean comme apôtres présidents des choses de l'Église. Ils étaient les présidents aux choses de l'Église, ces trois-là. Et puis, il a confié aux apôtres la mission d'apporter le message du salut au monde entier. Ils n'étaient pas très nombreux, mais à partir du jour de la Pentecôte, quand ils ont pu prouver par les miracles qu'ils faisaient que Jésus-Christ était vivant, sont des milliers qui se sont joints à l'Église, qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans l'Église, vous trouvez ça dans Actes 2, 38, dans la vraie Église de Jésus-Christ. Il n'y en avait pas deux ou trois, il y en avait une. C'était celle qui était conforme à la volonté de Jésus-Christ. Tout ça, ça se passait en Israël. Et puis, Pierre a reçu la révélation que Dieu ne faisait exception de personne, et qu'aucun groupe de personnes ne doit être considéré comme impur. Et que donc, l'Évangile devait aussi aller aux non-juifs aussi bien qu'aux gentils. Actes 10, 9, 48. Quand on dit aux non-juifs, la Bible appelle les non-juifs les gentils. D'où vient le nom gentan? Mon Dieu. Puis, il a suscité l'apôtre Paul. Dieu a suscité l'apôtre Paul, qui était un bonhomme qui s'appelait Saul, il était de Tarse, c'était un rabbin zélé. Et son ministère prophétique avait été, son ministère extraordinaire avait été annoncé d'une façon prophétique dans le testament du patriarche Benjamin au chapitre 11, dans les manuscrits de la Mère Morte, vous pouvez trouver ça. Mais je sais bien que les chrétiens ne croient pas ça. Tant pis pour eux qui restent dans leur ignorance ou qu'ils rejettent la connaissance, à ce moment-là, ils sont apostats. Nous, nous savons ce que Dieu nous a donné. Ces manuscrits de la Mère Morte qui sont nés le même jour que le jour du rétablissement du pays, du peuple d'Israël. C'est quand même un signe. Quand le peuple revient à vivre, ces écritures sortent de terre à Qumran, le manuscrit de la mer morte. Saul avait persécuté l'Église, il se convertit, vous connaissez comment, et il devient l'envoyé de Dieu aux gentils, aux gentons. Aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs. Et pendant près de 30 ans, en compagnie d'autres disciples dévoués, il a répandu l'Évangile dans une grande partie de l'Empire romain qui faisait tout le bassin méditerranéen. Et il y avait une grande croissance. Ils ont dû organiser l'Église en multipliant les anciens, les évêques, les diacres, les diaconesses, les prêtres, les instructeurs, les évangélistes, enfin vous connaissez tout ça. Et tous ceux-là ont été appelés et ont reçu des apôtres par l'imposition des mains l'autorité appropriée. Ça continuait à être la vraie Église de Jésus-Christ. Mais en même temps, les germes de l'apostasie se répandaient dans l'Église. C'est ce qu'on apprend en lisant Apocalypse 2 et 3, qu'il y a eu la naissance d'une fausse Église et elle a pris naissance dans la vraie Église. Pierre a écrit à ce sujet, on peut lire dans 2 Pierre 1, 2. 2 Pierre 2, 1, pardon. Il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même il y aura aussi parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà, avec leur soif de posséder, de posséder seulement l'argent, mais aussi comment on appelle ça, l'autorité, et les regards de tous. Ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. Donc c'était déjà au commencement, déjà du temps de l'apôtre Pierre, il y avait déjà cette sorte de personnes qui se manifestaient. Puis Pierre a donc prédit que plusieurs les suivraient. Comment ça se fait? Ben parce qu'il y a la connaissance du bien et du mal. Et comme ça, les gens montrent ce qu'ils sont. Si on n'aime pas la parole de Dieu, eh ben on va jusqu'à même renier Jésus-Christ. Bon, on en connaît plein qui sont apostats aujourd'hui, qui ne vont pas jusqu'à renier, n'est-ce pas, Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, mais ils renient pas mal d'autres choses, et ils abandonnent pas mal d'autres choses. Paul aussi a témoigné que parmi les croyants s'élèveraient des hommes qui enseigneraient des choses pernicieuses pour entraîner des disciples avec eux. Vous trouvez ça dans Actes 20, 30. Puis est venue la persécution qui a commencé sous le règne de Néron. Au commencement, les apôtres transmettaient les fonctions apostoliques par l'imposition des mains, par exemple avec Matthias, mais assez vite, ils se sont rendus compte que l'apostasie dans l'Église, l'abandon de la vérité, n'était pas seulement inévitable, mais aussi imminente, qu'elle était là déjà. Et lorsque les apôtres sont morts, la révélation qui permettait à la vraie Église d'être guidée, elle a cessé. Pas du jour au lendemain, évidemment, mais ça a cessé. Elle a cessé, en fait, en même temps que l'autorité pour la diriger. Comment ça s'est passé? Ben, rien de plus simple. Les années qui ont suivi la mort des apôtres témoignent abondamment de la disparition de la vraie Église. Les principes et les ordonnances ont été corrompus. Par exemple, ils ont changé le baptême à la place des morts en prière pour les morts. Ils ont inventé le purgatoire. Ils ont créé la Trinité. Ils l'ont rendu obligatoire. Tous ceux qui ne croyaient pas dans la Trinité, ils étaient hérétiques. Bonjour les hérétiques. Ils ont inventé la divinisation de Marie, mère de Dieu, rien que ça. Etc., 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 l'idolâtrie et compagnie. Ils ont mélangé la vérité avec des philosophies païennes. Ils ont arrangé les fêtes païennes et les ont transformées en fêtes chrétiennes. Et le Saint-Esprit étant attristé, les dons de l'esprit ont disparu graduellement. Ils ont changé l'organisation et le gouvernement de l'Église et les ordonnances essentielles comme l'ordination, comme le baptême. Ils ont commencé à faire le baptême pour les gamins. Le lavage des pieds, c'était carrément ça passait à la trappe. Oh, il faut sortir les cuvettes, c'est embêtant. Etc., etc., etc. Ils ont remplacé le pain et le vin par l'hostie. Enfin bon. Tout ça a été modifié et la fausse Église inspirée par Satan s'est faite connaître et a connu un succès mondial. Le monde aime ce qui vient de lui. Le passage de la vérité à l'erreur dans l'Église ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était progressif, mais l'apostasie, l'abandon de la vérité, hanté par la mort des apôtres au cours du deuxième siècle, s'est aggravé peu à peu dans les années suivantes. Et au IVe siècle, on ne pouvait plus reconnaître les traces de la vraie Église de Jésus-Christ. Une fois les apôtres décédés, les dirigeants locaux de l'Église ont acquis peu à peu davantage d'autorité. Ils se sont sentis des petits rois. Hein? Alors, les évêques ont décidé des règles et de la doctrine pour leur région et se sont autoproclamés les véritables successeurs des apôtres. Ça a commencé surtout à Rome, à Alexandrie, à Jérusalem et à Antioche. Lisez l'histoire. Et puis, les chrétiens ont commencé à être mal vus par les gens du monde pour plusieurs raisons. Ils étaient considérés comme des êtres antisociaux, ils refusaient de remplir les fonctions politiques, ils refusaient d'accorder à César la place de Dieu, ils refusaient de faire leur service militaire, ils refusaient d'user des tribunaux civils, ils refusaient aussi de prendre part aux fêtes publiques, et les églises ont été brûlées, détruites, les écritures ont été brûlées, et les chrétiens ont été obligés de faire des sacrifices sous peine d'être livrés à la torture, et ça vous rappelle rien? Ce qui s'est passé au commencement se reproduit à la fin. Un édit, qui date de l'an 306, a généralisé la persécution à tout l'Empire. Et puis Constantin est arrivé. Constantin. En réalité, Constantin n'est devenu chrétien que sur son lit de mort. Il n'est pas chrétien, comme on nous raconte. Mais le fait qu'il avait accepté et surtout soutenu le christianisme, ça rétablit le christianisme de l'Empire. Mais quel christianisme ? Quel christianisme ? On verra la suite de tout ça dans les réunions suivantes. Mais la chose à comprendre, mes frères et sœurs, le message que je veux faire passer, c'est qu'à la fin, Dieu veut rétablir la vraie Église. Et ça ne peut pas se faire en un jour. Mais il y a des faits historiques marquants. Selon la prophétie de Daniel, une pierre doit se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Mes frères et sœurs, je vous le dis, cette pierre s'est détachée. Le roi avait vu une statue dont la tête était en or, etc., etc. Il y avait des diverses parties. Elle était toujours debout quand la pierre s'est détachée. Ça veut dire que l'influence de Babylone, l'influence médo-perse, l'influence grecque, l'influence romaine est toujours là. Amoindrie, parce que ces empires ont été détruits et ont été remplacés par d'autres. Mais la tête d'or des Babyloniens, là, elle a pris un coup fatal parce que les pieds de la statue ont été touchés. L'Empire médo-perse a été détruit aussi en son temps. L'Empire grec a été détruit en son temps. L'Empire romain, à l'époque, qui aurait pu penser que l'Empire romain serait détruit? Et les 10 nations régnant de 476 à nos jours, il est en pleine chute libre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. Chaque empire a laissé une influence sur le suivant, mais en rétablissant la vraie Église, rien de l'héritage des empires précédents ne subsistera. Mais vous avez déjà vu un monument qui s'effondre ? Une statue gigantesque comme ça qui s'effondre ? Ça soulève beaucoup de poussière. Mais en attendant, il arrivera un moment où plus rien de l'héritage des empires précédents ne subsistera. Ce sera le règne de Jésus à la tête de la vraie Église. Or, mes frères et sœurs, tout a commencé en 1820. Et notre rôle à nous, notre destinée à nous, est de contribuer à faire rouler cette pierre. Les paroles prophétiques d'Ésaïe 29,14 s'accomplissent depuis cette date. Ésaïe 29,14, je vous le lis. D'abord, ça commence par le verset 13. C'est ce verset-là que Raphaël prêchait quand je me suis converti. « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain selon une leçon apprise. » Ça, c'est le verset dont il s'était servi le 1er juin 68, quand je me suis converti. Et au verset 14, « C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse des sages disparaîtra et l'intelligence des hommes intelligents devra se cacher. » Et ça, c'est quelque chose qui est en train de s'accomplir. Il n'y a jamais eu autant de miracles sur la terre qu'à notre époque. Si on relit Daniel 2, 31 à 44, voilà ce qu'on trouve. Ô roi, tu regardais, tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent. Son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage. En été, le vent les a emportés et on n'en a plus trouvé aucune trace. On n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Et ensuite, il décrit, il explique qu'est-ce que c'est que cette tête d'or, etc. Et puis cette poitrine, ses bras d'argent et tout. À cette époque, au verset 44, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là, c'est-à-dire le royaume babylonien, médo-perse, grec, romain et celui des 10 nations actuelles qui ont la puissance. Et il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Ça, c'est ce que Daniel dit. La pierre, c'est la révélation qui s'est détachée de la montagne de l'Éternel. D'où me viendra le secours ? De la montagne de l'Éternel. Et la révélation, ce n'est pas l'être humain qui donne la révélation, c'est Dieu qui donne la révélation. Et l'être humain la reçoit ou pas. Et celui qui ne la reçoit pas avec joie la prend en pleine face et il est détruit. Pas du jour au lendemain, ça peut traîner un peu. La révélation qui s'est détachée de la montagne de l'Éternel a frappé le monde, mes frères et sœurs. Et elle est en train de devenir une montagne qui va remplir la terre. Mais en ce moment, c'est le chaos de la destruction due à cette révélation qui choque le monde. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent que c'est la mauvaise volonté de M. Hollande. Pour lui, il ne peut rien faire. Tout est en train de s'écrouler. C'est mondial. C'est mondial, mes frères et sœurs. Et alors ? alors qu'ils n'y prennent pas garde, cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, elle grandit. Elle va remplir toute la terre. Elle subsistera éternellement. Et cette pierre, c'est la vraie Église de Jésus-Christ. Les paroles prophétiques d'Ésaïe 29, 14, que je vous ai lues, s'accomplissent. Il n'y a jamais eu autant de miracles sur la terre. Mais en même temps, le diable, n'étant pas encore jeté dans l'abîme, ce qui va lui arriver bientôt, c'est pour ça qu'il est énervé, eh bien, il y a aussi les faux miracles produits par la fausse Église, vous avez entendu. Oh, la sœur un tel a été complètement délivrée. Vous la voyez 6 mois après, elle est toujours de la cigarette au bec, elle est toujours en train de se faire porter pâle au travail, elle est toujours... voilà. Et l'autre possédé est complètement délivré. Ah oui, pourquoi elle est encore en train toujours d'être obligée d'être emmenée à l'hôpital psychiatrique? C'est des faux miracles produits par la fausse Église, par les faux ouins. Les fausses prophéties continuent à séduire ceux qui ont abandonné la vérité. La statue, en tombant, elle soulève de la poussière. Et cela aveugle beaucoup de gens qui se permettent des interprétations au sujet de ce qui arrive. À tâtons, ils interprètent et ils vont vous dire que l'Antichrist, c'est l'Amérique. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé cette idée? C'est Rome! Bien sûr, quelque chose à avoir avec l'Antichrist et les Nations Unies en Amérique, c'est l'Antichrist et puis Rome, c'est le faux prophète. Mais l'Antichrist, c'est pas l'Amérique. Il faut arrêter. Ce sera une personne. Mais ils interprètent des trucs, mais c'est incroyable. Mais ça a été tout le temps, de tout âge, en tout temps, ça a été comme ça. Ils ont toujours interprété d'après ce qui se passait, d'après ce qu'ils voyaient. Mais ce n'est pas comme ça qu'on interprète la parole de Dieu. Ce qui devait arriver, quand le roi du temps de Daniel a vu ce qui devait arriver, a déjà commencé. La pierre s'est déjà détachée. Elle a déjà frappé la statue de Daniel au pied, à ses fondements. Et mes frères et sœurs, cela a eu lieu en 1820. Et je reviendrai là-dessus et je vous expliquerai pourquoi je vous dis que c'est en 1820. Que ça a commencé. Dieu rétablit son Église. Israël a pu être ramené de sa longue dispersion. Et toutes les ordonnances salvatrices de l'Évangile peuvent maintenant être administrées de nouveau aux vivants et aux morts, comme au temps des apôtres. Les gens dans les Églises ne le savent pas, mais ils n'ont pas abandonné ça, ils ne le savent pas. Par contre, il y en a de chez nous qui ont abandonné ça. C'est plus grave. L'ordre que nous avons reçu est de croître, mes frères et sœurs, en beauté et en sainteté. Pour être un témoignage, nos frontières doivent s'élargir. Les pieux de nos tentes doivent être fortifiés. Oui, nous devons nous préparer et nous parer de nos plus beaux vêtements parce que Jésus revient pour nous enlever pour les noces de l'agneau. On s'en fout de la date, Monsieur Inerski. Ce qui est important, c'est d'être prêt et c'est d'avoir le message de l'heure, le message d'aujourd'hui, le message que Dieu donne aujourd'hui à son Église, pas au fada. Lors des prochaines réunions du vendredi soir, je vous enseignerai comment ce rétablissement a commencé et ça risque de choquer pas mal d'auditeurs qui viennent sur Révélation Bible, mais tant pis. C'est pas que j'aime choquer, mais j'aime la vérité. Et la vérité dérange tout le temps. Quand Jésus est venu, il a dérangé. Quand Moïse est venu, il a dérangé. Même le peuple voulait retourner en Égypte. Oh là là, le peuple. C'est comme disait Louis XVI, c'est bien d'être roi. Ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il y a un peuple. Un serviteur de Dieu est un envoyé de Dieu. Et la majorité des gens pensent que le rôle du serviteur de Dieu, c'est d'unir, c'est d'être un pacificateur, c'est d'être celui qui fait l'unité. Celui qui crée une belle mélodie avec les éléments rivaux et dissonants. Rien n'est plus faux, mes frères et sœurs. Jésus lui-même a été et est encore une pierre d'achoppement pour beaucoup. Il faut arrêter avec cette idée sentimentale du Jésus pacificateur. Un envoyé de Dieu ne peut être un pacificateur que si ceux qui l'écoutent sont eux-mêmes des pacificateurs. S'ils sont eux-mêmes des gens qui cherchent la paix. On cherche ce qu'on trouve, ou on trouve plutôt ce qu'on cherche. Vous voyez, il y a la raison, il y a la passion dans chaque être humain. Moi, je suis un être raisonnable, mais je suis aussi un être passionné. Et tout le monde est comme ça, plus ou moins chaud. Vous avez des tièdes aussi. Et quand la raison seule gouverne, elle est une force qui est limitée. Et quand la passion est livrée à elle-même et qu'elle gouverne, eh bien, elle est une flamme qui brûle jusqu'à sa propre extinction. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, la passion floupe, quoi. Hein? C'est pourquoi Jésus dit « Veillez et priez afin que votre esprit, en communion avec le Saint-Esprit, élève votre raison à la hauteur de la passion. » Ainsi, votre raison renouvelée par le Saint-Esprit guidera votre passion afin que vous puissiez vivre chaque jour votre résurrection. Je commence à faire des vers comme frère Osborne. Regardez la nature, mes frères et sœurs. Voyez comment Dieu est dans la nature. Là, il va de nouveau faire beau bientôt. On va pouvoir aller s'asseoir sous les arbres. Choisissez-vous un beau peuplier. Asseyez-vous à l'ombre fraîche d'un beau peuplier. Entrez dans la paix, dans la sérénité, en regardant la beauté des champs loin, avec la chaleur et toutes ces belles choses qui font vibrer l'air. Et que votre cœur dise en silence, oui, Dieu se repose dans la raison. Et puis quand la tempête vient, qu'il y a un vent puissant qui secoue la forêt, et que le tonnerre gronde, et que, alors là, que votre cœur dise avec une crainte respectueuse, oui, Dieu se meut dans la passion. Mes frères et sœurs, comme nous sommes ici-bas qu'un souffle dans le domaine de Dieu, et que nous sommes comme une feuille dans sa forêt, nous aussi, il faut que nous reposions sur la raison et que nous nous mouvions dans la passion. Vous vous rappelez repos et mouvement. Vous vous rappelez de ce texte? Je vous dis cela parce que durant cette semaine, je vous invite à vous préparer, à préparer vos cœurs à recevoir la pensée de Dieu. Déjà vendredi, je vous le disais, on ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot, on va de l'avant. Une pensée de rétablissement, une pensée qui va paraître nouvelle mais qui ne l'est pas. Simplement, elle est rétablie, va être donnée. Je prie afin que vos cœurs soient prêts et que vous n'y trouviez pas une occasion de chute. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Merci Jésus de préparer nos cœurs pour recevoir ta parole vendredi prochain. Merci mon Dieu de permettre que chacun puisse réécouter ce message afin de bien comprendre le plan que tu as. Et que nous n'avons pas à juger comme le monde juge, mais à voir avec tes yeux et à regarder les choses et les événements avec le secours de ton esprit. Merci Seigneur de nous permettre de savoir si nous sommes oui ou non dans la vraie Église. Merci Jésus. Sois béni mon Dieu. Amen. Amen. Je vais demander aux musiciens de s'approcher et nous allons continuer à louer Dieu un moment. À bientôt, mes frères et sœurs. Dieu vous garde fort et en santé. Amen.